Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de voir que autant de monde se mobilise et se déplace pour la question de la forêt et Héricourt. On va vous faire une petite présentation ce soir de ce qu'on sait du projet et puis de notre collectif, du combat qu'on va mener et qu'on mène déjà. Et donc nous aurons plusieurs personnes qui vont prendre la parole. À tour de rôle, nous aurons je vais commencer par vous présenter un peu la genèse du collectif. Ensuite, nous aurons Florence Higelin qui va nous parler de biodiversité, qui vient de FNE 70, qui nous fait l'amitié de venir. Ensuite, Daniel Chatter qui présentera la partie un peu économique du projet avec Grégoire Gilles. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour faire la fin de la présentation et pour lancer les débats, puisque la présentation sera suivie d'échanges entre nous. Donc merci à tous d'être là. Désolé pour les personnes qui sont à l'extérieur, nous sommes obligés de respecter le protocole dû au Covid. Merci pour votre compréhension. J'espère que vous m'entendez bien dehors.
Très bien.
Très bien. Si vous avez besoin de chaises, n'hésitez pas à venir réclamer. Merci. Donc l'ordre du jour, ce que nous savons déjà du projet, ensuite les atteintes irréversibles sur notre environnement, donc la partie environnementale, l'inutilité à nos yeux de détruire la forêt de Luz, ensuite on verra comment on peut agir ensemble, et les actions qu'on a envie de mener, et puis on terminera par un temps d'échange. Donc au départ, comment le collectif s'est monté, en fait, c'est né du programme de M. Burkhalter pour sa candidature à la mairie d'Héricourt, car dans son programme, il y avait un paragraphe donc, qui mentionnait une zone industrielle de 30 hectares en projet sur Héricourt. Ça fonctionne ? Oui, très bien. Ouais, je vais avoir besoin de déplacer parce que sinon je n'arrive pas à lire d'aussi loin. Voilà, donc dans son programme était stipulé donc aménager la plateforme industrielle et d'activité de Luz, acquérir les 30 hectares de foncier nécessaires aux abords de la Deux Fois Deux Voies. Ce nouveau pôle de développement économique est un projet majeur. Il permettra d'accueillir des projets de grande ampleur sur une plateforme d'un seul tenant de 30 hectares et de former la zone d'activité de l'aire urbaine, j'arrive pas à lire, tant pis, 300 000 habitants, au niveau de Technoland à Montbéliard, qui est la zone de Fontaine. Donc créer une zone d'activité économique de grande ampleur à Luz semblait donc être une priorité sur le programme de M. Burkhalter. Donc étonnée de ce programme, j'ai voulu en savoir plus et je me suis rendue à l'une de ces réunions publiques. Donc juste avant le premier tour des élections, avant le confinement, donc M. Burkhalter et son équipe donc, avaient des réunions publiques. Je me suis rendue à celle du samedi 7 mars au centre d'affaires Pierre Carmin. Je me suis retrouvée seule face à l'équipe de M. Burkhalter. Pour placer dans son contexte, on était juste avant le confinement, donc sans doute la peur aussi du rassemblement. Et puis c'était un jour de repas des personnes âgées à la cavalerie. Donc M. Burkhalter m'a très gentiment accueilli, il n'a pas voulu que je fasse ce déplacement pour rien, et j'avais des questions à lui poser, donc on s'est posé à une table et on a pu discuter. J'ai appris plein de choses, donc j'ai appris déjà que je ne suis pas écolo, bon, ça m'évitera une étiquette, finalement tant mieux, et... Comme il m'a dit que les écolos veulent le retour à l'âge de pierre, donc je vous assure que j'ai vraiment eu cet argument-là, je ne pensais pas que ça arrivait encore, mais je l'ai entendu. Donc je me suis dit, bon, bah finalement, si je ne suis pas écolo, tant mieux. Alors pourquoi je ne suis pas écolo? Parce que je suis mis en voiture. Parfois, j'utilise une voiture, une vieille voiture en plus. Donc voilà, en plus, j'ai la chance de vivre dans une maison à la campagne. Donc quand on est écolo, on n'a pas de maison à la campagne, on vit en ville dans un habitat collectif. Voilà. J'ai aussi appris que l'écologie était une affaire avant tout individuelle et pas collective, à son sens. Bon, c'est un point de vue culpabilisants qui se discutent, mais bon, voilà, j'ai appris des choses. J'ai appris aussi que les zones industrielles, comme les déchetteries, ben, tout le monde en veut, mais pas à côté de chez soi. Donc quand j'ai demandé si la population était au courant, M. Burkhalter m'a répondu que non, et qu'il valait mieux pas qu'elle le soit, parce que les gens de l'US allaient certainement être contre. Donc vive la démocratie. Voilà. Et puis, donc j'ai quand même appris des choses, parce que bon, la conversation déviait toujours. Hein, je posais voilà, régulièrement mes questions sur cette zone, parce que c'était ça ma préoccupation. Et j'ai appris que le projet était sur l'US. Ça, j'ai eu cette réponse-là. J'ai aussi appris que, les terres ne seraient prises que sur de la forêt. Donc là, moi, voilà, mon souffle s'est coupé. Je ne m'attendais pas à ça. Et ben, je suis partie un petit peu, un peu penaude. Pas du tout rassurée. J'étais venue dans l'espoir d'être rassurée sur ce projet. Et c'était tout le contraire, en fait. C'était la panique, quoi. Alors là, je me suis dit, bon, ben, toute seule, je n'arriverai pas à le convaincre. Je suis mal partie. Apparemment, mes arguments... par rapport au réchauffement climatique, à la biodiversité, c'était pas vraiment sa priorité parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de forêts à l'US, donc on pouvait l'entretenir. Voilà. Donc je me suis dit, il reste une réunion publique avant les élections, donc si on y va à plusieurs, peut-être qu'on peut encore essayer de convaincre M. Burkhalter que ce projet, tout du moins, nous inquiète. Donc on y est allé à plusieurs, j'ai fait appel à des amis. Et à cette réunion-là, c'était assez flagrant. En fait, on n'a eu aucune réponse parce qu'il n'a pas voulu du tout parler du projet. Voilà, donc les gens qui étaient présents pour en témoigner, à chaque fois qu'on parlait de ça, on nous renvoyait sur la route du tram ou sur d'autres questions, écologiques peut-être, mais en tout cas pas ce qui nous préoccupait. Voilà, donc bon, en sortant tout ça, on s'est dit va falloir qu'on se monte en collectif, parce que là, de trois, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc le collectif est né ainsi. Donc dans le collectif, actuellement, on est 13 membres actifs, et puis on est une bonne vingtaine de sympathisants, et on espère que ça va grandir. Donc une chose qu'on a voulu voir, c'est 30 hectares, ça représente quoi? Parce que 30 hectares, pour nous, voilà, ça ne nous parle pas vraiment. Un hectare, on voit à peu près ce que ça donne. Donc 30 hectares, on a symbolisé ça sur les villages alentours et sur un quartier d'Héricourt. Donc pour le quartier d'Héricourt, on est sur toute la cité d'Olfus. Et puis sinon, pour les villages, ça représente la superficie des Jetons sous Montvaudois, de Coutenant, de Chaget, de Trémoin, si on compte à peu près toutes les habitations des villages. Donc c'est assez gigantesque comme superficie, ça représente 40 terrains de foot à peu près. On a voulu savoir à quel endroit le projet était envisagé. Donc on a réussi à situer ça, donc c'est sur la commune de Luz, mais on est tout proche de Chaget, le long de la 2x2 voies. Donc vous voyez la route. Le bâton de la maîtresse. Donc on est à Trémoin, Coisevaux, Coutenant. Donc ici on a la route qui part à Chaget et l'ancienne route ici qui va vers Lure et la 2x2 voies qui va vers Lure. Donc on est tout près de la 2x2 voies dans cette zone-ci. Voilà. Oui, on va y revenir. Effectivement, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et c'est pas plat, ce qui va poser problème. Donc voilà, au niveau de la vue avec la végétation, on voit bien que c'est boisé. Et uniquement boisé, donc on n'est pas sur du terrain agricole, on est vraiment sur de la forêt uniquement. Nous, on a fait nos calculs, donc on a vu qu'on était à plus de 30 hectares, si c'est vraiment cette zone-là qui est priorisée. Donc là, on est à 39 hectares sur ce calcul-ci, 37 sur celui-là, mais en tout cas, bien plus que 30. Au niveau de la végétation, ici, on voit en vert, ce sont des feuillus, et en rose, ce sont un mélange de feuillus et conifères. Voilà, pour la vue IGN, elle est intéressante parce qu'on voit effectivement, comme vous l'avez remarqué, que nous sommes tout près d'un étang et nous sommes ici en amont d'un cours d'eau qui ensuite va se jeter dans la Lizaine. Le point culminant est à 426 mètres, le point bas est à 354 mètres, donc on a plus de 50 mètres de dénivelé. Donc si on veut faire une zone industrielle, il va falloir niveler. Et voilà, il y aura des mouvements de terrain et des choses qui vont s'évacuer dans le cours d'eau. Donc après, comment ils vont gérer ça? Mais c'est une préoccupation. Ensuite, là on a cherché une vue aérienne des années 1950-1965 de cette zone. Donc pour trouver la zone qui nous intéresse, donc ici, hein, au-dessus de la deux fois deux voies, donc qui était déjà effectivement bien boisée auparavant. Donc on voit que le bois a déjà été impacté par la deux fois deux voies. Et que pas loin de notre zone, on a aussi l'aire des bois de veau qui a été prise entièrement sur de la forêt. Voilà, donc la forêt a déjà souffert à cet endroit. Et l'aire des bois de veau, bon, on en pense ce qu'on veut, mais moi, il me semble qu'elle est quand même assez vive, quoi. Voilà, donc nous, notre grande préoccupation par rapport à tout ça, bien sûr, c'est le déclin des espèces. On ne peut pas discuter que les espèces sont en train de disparaître, que c'est de notre faute, que sans la biodiversité, ben, c'est notre survie qui est en jeu, parce que la biodiversité, ben, c'est la base de tout, hein. Nos besoins fondamentaux, nos besoins d'humains, sont tous fournis par la nature, donc on mange grâce à la nature, on boit, on respire grâce à la nature, on se soigne avec les médicaments, on tire de la nature, on s'habille avec la nature, enfin on est nature, quoi. Donc on est en train d'attaquer fortement ce qui nous maintient en vie et c'est ce qui vraiment nous fait peur dans ce projet. Donc là, je vous ai mis un petit, pour vous montrer un peu le déclin des espèces vivantes depuis 1970 au niveau mondial. Et on voit que la première cause en rouge, en numéro 1, c'est la première cause de disparition des espèces, c'est bien la dégradation ou la perte de leur habitat. Bien avant toutes les autres causes. Voilà. N'étant pas une spécialiste de la biodiversité, je vais demander à notre spécialiste, Laurence, si elle veut bien venir nous dire un mot sur ce sujet.
C'est un gros mot, mais bon. Bonsoir tout le monde.
Donc bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Madame Jean Florence. J'habite pas très loin d'ici. J'habite sur Malval. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tout petit village à côté de Saulnot. Et je fais partie de l'association donc des Amis de la Nature de Saulnot et les environs, ainsi que de FNE 70. Donc ma présence ici a été on m'a demandé gentiment si je voulais participer, ce à quoi j'ai répondu oui, pour parler un peu de tout ce qui est biodiversité. Donc effectivement, comme on a pu voir tout à l'heure, toutes les espèces menacées, c'est quand même dû à l'homme, déforestation, surpêche et ainsi de suite, on a tous ces problèmes-là. Donc une forêt, ça sert à beaucoup de choses en fait. Ça renouvelle l'oxygène, ça renouvelle donc l'oxygène, c'est nos ressources en eau aussi. Si une forêt est bien entretenue, ça évite les glissements de terrain. Donc là déjà, on va avoir la problématique vis-à-vis de ce projet-là, effectivement du dénivelé, qui risque de produire ces glissements de terrain. Donc glissements de terrain, après les eaux vont être polluées par tout ce qu'il peut y avoir comme déchets suite dû à ces travaux. Bon, après, on aura des ruisseaux en moins, donc les réservoirs d'eau vont diminuer sérieusement. On a déjà de gros problèmes avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ma foi, on a tous les animaux, la faune, la flore. Donc, tout le monde connaît un petit peu la faune qu'on peut avoir et la flore qu'on peut avoir ici en Franche-Comté, qui est à peu près la même sur toute la Franche-Comté.
Donc on a tout ce qui peut être comme animal, les cerfs, les chevreuils, les renards, les fouines. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tous les oiseaux, les rapaces, ils ont chacun une utilité, du plus petit au plus grand, que ce soit les batraciens comme les insectes, hein, on a les libellules, ils ont tous leur utilité chez nous. Et ma foi, tout ça, c'est des choses que vous allez perdre si personne ne bouge, si personne ne fait quoi que ce soit. C'est des choses qu'on perd petit à petit à cause des projets industriels, à cause des projets éoliens aussi, hein, faut le dire, quand même. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle où il faut mettre un petit holà. Donc, il faut savoir aussi que ça fait la filtration de l'eau, une forêt. Hein, enfin, tout est lié, en fait. Tout est lié. Voilà, mais en gros... Après, si, ça permet aussi aux promeneurs d'aller se promener et de ramasser des champignons. C'est toujours bon de se faire une omelette aux champignons. Il y a plein de choses comme ça. Après, c'est vrai que je pourrais débattre longuement sur le sujet. Bon, on va peut-être pas non plus... je vais peut-être pas m'étendre directement ce soir là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui font que il faut se battre un peu, se remuer tous, se prendre par la main. Et puis mettre un peu le haut là. Il y a beaucoup de zones industrielles actuellement qui sont en friche sur Héricourt, sur Montbéliard et dans pas mal d'endroits. Donc je pense que c'est peut-être pas nécessaire de refaire une friche industrielle ici dans une forêt qui est viable et qui se porte bien. Donc ça serait bien d'en prendre soin. Voilà, donc en gros c'était un petit peu notre coup de gueule à nous. Enfin, vous dire un peu, voilà ce qu'on avait, ce qu'on pensait là-dessus.
Merci.
Alors, allô, ouais. Bonjour, rebonjour, Daniel Chatter. Pour me situer, là, je suis aussi dans la... On est un petit nouveau dans la Comcom, là, puisque j'habite le village d'Èbre. Et... Comment... J'ai... découvert, très franchement, j'étais pas un grand pollueur avant, mais en fait, le côté essayer de préserver un minimum de nature qui permette. Au début, quand j'ai commencé il y a 10 ans, là, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, j'ai commencé pour dire oh, c'est pour mes enfants. Et plus j'avance, plus je deviens égoïste. En fait, ce que l'on préserve en ce moment, ce n'est pas uniquement pour nos enfants. C'est aussi pour nous. Parce que ça va très vite. Alors, c'est vrai que là, quand on regarde le thermomètre, on dit « Oh là là, ça réchauffe, ça, c'est vrai !» Mais il y a beaucoup plus sournois, comme l'évoquait Florence. C'est tout ce travail qui a conduit à déséquilibrer fortement nos espaces naturels. Qui peut des fois d'ailleurs, certains le disent, avoir une influence sur la réapparition de certains virus ou l'apparition de certains virus de manière aussi radicale qu'on a pu le vivre, les transports bien sûr, notre vie. Mais donc c'est plus uniquement pour nos enfants que l'on souhaite garder une nature, enfin un cadre de vie vivable, garder aussi des réserves. On a besoin de la nature, hein, on ne se trompe pas, mais. Que ce soit soutenable, mais c'est pour nous, très égoïstement. Et pour nous, largement passé la soixantaine, hélas, on risque d'être fortement pénalisé par. Si on contribue à dégrader les choses. Donc, on a plutôt pris le côté d'essayer de contribuer à les améliorer ou atténuer les dégâts. Voilà. Si on reprend maintenant, si on reprend cette affaire de projet, la bonne nouvelle, c'est que c'est un projet dont vous n'avez probablement pas trop entendu parler. Donc, si quelqu'un vous disait que c'était pas un projet, vous vous êtes trompé, tout le monde serait bien. Donc, c'est le bon moment pour en parler. Et c'est formidable de voir comment les gens peuvent se mobiliser. Très tôt pour un projet qui est désamorçable. Je parlerai d'un autre projet très rapidement sur la commune de Smondon, juste à côté, à 6 km. On a on a formé un collectif aussi, on a formé une association. On a 950 personnes. C'est pas mal, 950 personnes. On a fait l'erreur d'être informé uniquement à l'enquête publique. C'était déjà trop tard. L'enquête publique, les autorisations n'ont été signées que 5 ans après. Mais l'enquête publique, c'est trop tard pour que nos décideurs comprennent, infléchissent leur choix pour que notre cadre de vie reste acceptable. Bon, ça finira bien quand même cette histoire de carrière à ce moment, mais on aura quand même été obligé de développer pas mal d'énergie. Donc là, c'est vraiment, vous êtes au bon endroit et au bon moment. C'est maintenant qu'il faut, de manière très courtoise, peut-être faire prendre conscience à certains qu'un projet qui consiste à raser 35 hectares de forêt de feuillus, on n'est pas en train de parler d'une forêt en bonne santé en prime, on n'est pas sur du résineux où il n'y a pas grande biodiversité, il y en a 10 fois moins que sur du feuillu. Là, on est sur du vrai feuillu, de la vraie forêt. En plus, effectivement, il y a des ressources en eau. Et c'est le bon moment pour expliquer le plus sereinement possible que ce n'est pas le bon endroit, tout simplement. Alors, si on voulait regarder les endroits, parce qu'en fait, le propos, c'est pas de se dire, en tout cas, moi, j'ai pas cette capacité, j'ai pas d'avis sur la nécessité ou pas de créer une nouvelle zone d'activité. Très franchement, on peut avoir un avis, mais en tout cas, c'est pas mon propos aujourd'hui. Par contre, il faut juste s'attacher à se dire, mais à cet endroit-là, est-ce que c'est utile? Et c'est-à-dire l'endroit, c'est les bois, je parle pas des récours. Hein. C'est, est-ce qu'il faut absolument raser 40 hectares de bois? Et c'est en prenant ce point de départ qu'on s'est posé la question, bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe. 40 hectares, c'est beaucoup. Alors, je crois que les clignotes, ça doit être... Ils doivent être à une douzaine d'hectares, en tout cas, c'est... Pardon ?
30
hectares. Les guinottes, déjà ? D'accord. Donc c'est un guinot bis.
Exactement.
C'est la même surface, 37 hectares, donc... Ouais. D'accord. Donc, je m'informe. Alors, détail, on n'a pas répété. Hein. Ça fait 10 jours que l'on a certaines informations. Donc, comme on est dans une première, ben, il y aura quelques petites imperfections. Alors, du coup, oui. Une trentaine d'hectares. Alors, ça, c'est des sources, je pense, assez sérieuses. C'est en fait la communauté de communes de Belfort, Grand Belfort, et puis le pays de Montbéliard qui se sont groupés, qui ont créé une association qui s'appelle l'ADEL, qui est juste à la jonction à côté de la gare TGV. Et ces gens-là essayent de proposer, d'attirer, ça a son importance, on a quand même un passé industriel fort dans ce secteur, un présent fort aussi, et d'attirer de nouveaux industriels, c'est bien normal. Enfin, en tout cas, ils le font. Et puis du coup, on se dit, ben, c'est quoi cette histoire d'hectares? Ben, en fait, on se rend compte, c'est rapidement, mais la presse nous l'a déjà évoqué. Là. 40 hectares, toujours disponibles. Hein, l'aéroport, il est beaucoup plus grand. Hein. Mais il y a toujours 40 hectares disponibles au nord de Belfort. 32 du côté de Belle. Le 85, Tecteland, pardon, es-tu oui, Tecteland 2, oui. Et peut-être plus contraignant, mais les surfaces qui sont hélas vidées à Belfort. Donc, bon, on fait des comptes, on dit, tiens, il y a déjà 180 hectares qui en ont. Bon, ils peuvent avoir un intérêt ou pas. On continue à regarder un petit peu, cette fois-ci on pense au passé de la région, on se dit, ben, il y avait des usines et il y en a qui ont disparu. Donc on peut regarder les zones qui sont disponibles, mais plutôt sous forme de friches. Et là, ça nous amène à cette On arrêtera ça peut-être en vert. Là, ça nous amène à ces notions de friche industrielle et d'artificialisation des terres. La grosse différence entre une zone industrielle ou une friche comme on a ici et ces 35 hectares de bois, c'est que ces 35 hectares de bois, ils vivent, ils nous aident à vivre aussi, ce que l'on évoquait tout à l'heure. Ces friches industrielles et ces zones industrielles disponibles, elles peuvent nous apporter une économie, ce qui permet de faire fonctionner effectivement nos sociétés modernes. Mais c'est tout, quoi. Et quand il n'y a pas cette activité, elle ne nous apporte rien. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont en friche. Dans la semaine qui vient de passer, le temps qu'on a pu y consacrer, on a juste regardé Montbéliard. 5 grosses friches. Il y en a une que vous croisez quand vous passez l'autoroute là, assez fréquemment. Hein. 5 grosses friches, toutes celles qui font plus de 15 hectares, sur totalise, on a déjà 220 hectares de friches. Uniquement sur la partie sud du secteur Montbéliard, Belfort et Ricourdel. Je ne fais pas de règle de 3, mais il doit y avoir quelques friches aussi sur la partie Belfort et puis ici aussi d'ailleurs. 220 hectares dispo, 180 hectares dispo. Bien sûr, on peut comprendre une volonté d'avoir la capacité d'accueillir, mais quand on a déjà des zones artificialisées disponibles, est-ce que pour créer une nouvelle proposition, mettre à disposition de nouveaux terrains, on est obligé de raser 35 hectares de feuilles. Il est là le propos. Ce n'est pas de savoir s'il faut une nouvelle zone industrielle, c'est de savoir est-ce que l'on accepte de raser une forêt de feuillus en bonne santé et qui nous aide à vivre. Il est simplement là. On peut maintenant, en passant le slide suivant, revenir sur la partie Héricourt. On a des espaces. On a des espaces disponibles. On n'a pas, aujourd'hui, entendons-nous bien, 30 hectares d'espace disponible. Il y en a 4 sur du côté des Binotes 3. Il y a des choses qui, plutôt à vocation artisanale, se font sur Solno. Et coup de nom que je connais moins. Voilà. Dernier flash, là, ce sont des surfaces moindres, mais on a également nos propres zones vides, friches, directement sur la commune d'Héricourt. Mais on est loin des villes, ainsi d'ailleurs que sur le centre. Non, le propos, il est vraiment autour de ça. Aujourd'hui, faut-il sacrifier, artificialiser 35 hectares de forêt vivante et en bonne santé, j'insiste, parce qu'il y a d'autres zones où elles ne sont pas du tout en forme. Mais là, c'est des beaux arbres avec toutes leurs feuilles. La question est posée et je vois que vous êtes assez nombreux à vous la poser aussi. Merci.
Bonsoir, je me présente Grégoire Gilles, maire de Trémoin. Donc, à ce titre, je suis bien heureux de vous accueillir et puis de voir le succès de la soirée. C'est un bon présage, je pense. Moi, je vais vous parler un petit peu aussi de l'aspect économique et plus généralement. Juste en préalable, tout à l'heure, j'écoutais France Inter, c'était Isabelle Autissier qui était interviewée, je ne sais pas si certains l'ont entendu. Un chiffre comme ça, parmi d'autres, bien évidemment. Pour montrer un petit peu ce problème d'effondrement des espèces, etc. 60% des moineaux qui font partie de notre paysage ont disparu depuis quelques années. C'est énorme, enfin, je veux dire, donc on est touché à tous les niveaux. Et je pense qu'il faut qu'on change notre façon de produire, notre façon de consommer, et que c'est pas en pensant que ça va se faire ailleurs, que ça va se faire sous d'autres latitudes, voire avec d'autres niveaux de décision. Le niveau local est un niveau indispensable. Aujourd'hui, les décisions qui devraient être prises pour lutter contre l'émission astronomique de CO2 et donc pour l'impact que ça a sur le climat, ces décisions-là ne sont pas prises. Elles sont prises de façon laconique. Et en fait, juste une petite remarque au passage, quand l'ONU décide, avec les COP qui se suivent, qu'on va se donner des moyens politiques pour réduire les pollutions climatiques et donc les réchauffements globaux, dans les préalables que l'ONU pose, c'est qu'il ne faut pas que les conditions en question remettent en cause le commerce mondial. Donc en gros, on a un niveau de décision à l'Europe et au gouvernement, en France en particulier, qui aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec les mesures qu'il faudrait prendre. Donc c'est à nous citoyens, à nous élus locaux, de s'impliquer, de se poser des questions, et puis de réfléchir à ce que doit être le lendemain, c'est-à-dire comment on va devoir consommer, comment on va devoir produire. Alors, quand on s'oppose à la 5G, c'est aussi quelque chose qui est très, très perturbant pour la nature et puis pour nous aussi, pour notre santé. On a un président de la République qui parle qu'on va devenir des Amish. Bon, c'est tout à fait choquant. Aujourd'hui, le discours politique est très très compliqué puisque on s'y retrouve pas. Un jour, on est prêt à suivre les 150 propositions de la Convention pour le climat. Le lendemain, on remet tout en cause et on rétablit les je le ferai pas, ça j'y arriverai pas. Bon, bref, il y a vraiment un souci. Alors, avant de parler un petit peu d'aspect économique, parce qu'il faut en parler également, mais je pense que c'est un ensemble. On ne peut pas distinguer d'un côté la nature, le fait de protéger les espaces naturels, les espèces, etc., et puis parler d'économie à côté. C'est un ensemble. Mais on sent bien que le discours officiel, on veut séparer les choses pour ostraciser tout ce qu'on peut. Il y a eu une réunion du bureau de la communauté, de la communauté de communes la semaine dernière, où a été évoqué ce projet-là. On est aujourd'hui dans la phase des prospections, on va dire, foncières, pour que la communauté de communes acquiert les 30 à 40 hectares en question. C'est pas simple. Et c'est même assez compliqué, dans le sens où les propriétaires de ces terrains ne sont pas, a priori, à ce stade-là, disposés à lâcher les hectares facilement. Donc il y a un des maires qui était présent, qui a posé la question, savoir de quel projet il s'agissait, puisque les informations sont vraiment distillées au compte-gouttes, et aujourd'hui on n'a pas d'idée précise de quoi il s'agit. Et il a précisé dans sa question que s'il posait justement cette question-là, c'est parce qu'à l'extérieur, on entend des voix qui s'élèvent, qui sont contre ce projet. Et donc la réponse de M. Burkater, ça a été « Moi j'entends, trois petits points, il y a quelques voix qui s'élèvent contre ce projet. » Des abrutis d'ailleurs. Alors tout de suite j'ai pensé abruti, amiche, aboutiche. Donc voilà, l'approchement est assez simple à faire. La communauté commune, et là, la compétence économique, qui a été renforcée d'ailleurs à partir du moment où le département l'a perdue avec la loi Nôtre. Et là, cette compétence économique, elle la partage avec la région. Aujourd'hui, on est face à, une problématique et une fuite en avant, en tout cas, une volonté de se développer à tout prix. On le voit au point de vue national, les élections, elles se jouent sur quoi? Sur le taux de chômage, sur le taux de croissance, des choses comme ça, des données qui sont éventuellement pertinentes, je dis bien éventuellement, parce qu'à mon avis, elles ne le sont pas tant que ça. Toutes les mesures qui sont prises sont pour faire bouger ces indicateurs-là. Au niveau local, il y a déjà quelques décennies, en tout cas une bonne quinzaine d'années, on avait ce qu'on appelait la taxe professionnelle. Donc chaque commune touchait la taxe professionnelle qu'elle prélevait auprès des entreprises qui étaient sur son territoire. Ça, ça a donné, à un moment donné, que pratiquement toutes les communes voulaient une zone industrielle ou une zone artisanale pour pouvoir développer l'accueil des entreprises et du coup toucher cette taxe. Il y a eu une évolution qui était intéressante, en tout cas, ça s'est appelé la taxe professionnelle unique, la TPU, et qui fait que la compétence économique a été reprise obligatoirement par les communautés de communes, c'est plus les communes qui l'exerçaient, et ce qui fait qu'il y a eu une réflexion sur un territoire donné de savoir où mettait-on les zones industrielles, de façon à éviter ce qui était arrivé naturellement. La plupart des zones industrielles étaient quasiment vides. Donc ça coûtait de l'argent. Au final, ça ne rapportait pas grand-chose. Et puis surtout, maintenant, je dirais, on est beaucoup plus sensible à ça, on ne l'était pas il y a 20 ans, ça évitait d'artificialiser des surfaces qui n'avaient pas besoin de l'être. Donc, depuis qu'on a une TPU et que la compétence est gérée en communauté de communes, bien, on a cité quelques zones industrielles, et elles ne se sont pas développées partout comme on aurait pu le penser si les choses étaient restées en l'état. Aujourd'hui, le niveau de regroupement, on le voit surtout dans un territoire comme le nôtre, le Nord-Franche-Comté est très très industriel, ce niveau-là n'a plus vraiment de sens. Pourquoi la communauté de communes veut développer une nouvelle zone industrielle? C'est pour ramener des emplois? Si on fait le calcul, enfin si on regarde ce qu'il y a combien de personnes travaillant sur les guignottes vivent dans nos villages ou sur les cours. À mon avis, c'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que aussi, une partie des entreprises qui sont arrivées sur les cours, sur les guignottes, sont des entreprises qui étaient déjà dans la région. Elles sont venues là pour des raisons économiques avant tout. Il y a des mesures qui étaient quand même relativement favorables en termes d'investissement ou en termes d'impôts qui sont peut-être un peu moins importants que sur PMA, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut en rester là ou est-ce qu'il n'y a pas une autre approche à mener justement pour s'inscrire dans une réflexion de durabilité. En clair, il faut qu'on fasse retourner à la nature des surfaces imperméabilisées, artificialisées, qui aujourd'hui n'ont pas de raison d'être. Et on a dit que dans les choses qui doivent se développer prochainement, ou en tout cas il faudrait déjà y être, c'est quand on artificialise un hectare ou un mètre carré, on rend un autre mètre carré à la nature. Donc ça, en fait, ça a l'air d'être du bon sens. C'est quelque chose qui va être indispensable dans les années qui viennent. Je rejoins ce que disait Daniel. C'est évident que ce n'est pas nos enfants, ni même nos petits-enfants qui vont en souffrir de tout ça. On en souffre déjà. Et on est qu'au tout début de ce dérèglement climatique qui amène le chaos. Donc il faut qu'on commence par toutes sortes de mesures qu'on est sûrement à même de prendre au niveau local. Et donc là, on est sur un projet qui est emblématique parce qu'il est complètement inutile. Une chose qui a été aussi annoncée à cette réunion de la semaine dernière, pourquoi une zone de 30 hectares? C'est pour pouvoir accueillir des gros projets. Quels sont les gros projets qui sont annoncés, enfin, qui sont évoqués quand on parle donc de projets qui réclament 20, 25 hectares pour d'un seul tenant pour pouvoir venir s'établir? Est-ce que vous avez une petite idée?
Amazon
ou une usine de batterie. Mais Amazon, on n'est pas dans un schéma économique d'avenir, enfin, sauf si on trouve que c'est tout à fait normal qu'un seul acteur mondial comme Amazon, premièrement, détruise tout le tissu économique de nos villes et nos campagnes. Un emploi chez Amazon, c'est au moins 4 emplois grillés à côté. C'est aussi Amazon, on ne paye pas d'impôts. Donc ça veut dire que tout ce qui est nécessaire pour faire ça, par exemple, là, la communauté de communes va mettre de l'argent sur la table. Donc c'est notre argent. Elle va aller réclamer de l'argent auprès de l'État, auprès de la région, pour pouvoir monter ce projet-là. et pour pouvoir proposer les mètres carrés à un prix intéressant pour faire la différence avec l'autre zone industrielle, par exemple de Fontaine, qui a elle-même des conditions où on a également de l'argent public. Hein. Et ça, pour pouvoir mettre des gens en place qui ne vont pas payer leurs impôts. Moi, je trouve ça tout à fait choquant. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je regarde si j'avais encore deux, trois petites notes, mais je crois que c'était ça. De toute façon, on aura le temps, je pense, d'y revenir. Je ne vais pas faire plus long, mais il y a plein de sujets qu'on peut rajouter à ça. Et je pense qu'on est à un début d'une belle aventure, une grande aventure, parce qu'il faut qu'on fasse changer cette décision, qui n'en est pas encore une d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'est même pas partagée avec les élus. Et que je pense qu'on est à un moment où les citoyens que nous sommes peuvent faire bouger. Merci de votre attention.
Donc c'est le moment, allons-y, comment agir, hein, puisqu'on est tous là, il faut qu'on soit nombreux. Donc on a essayé de recenser un petit peu les idées qu'on avait, les idées d'action. La première chose qu'on peut vous conseiller déjà, c'est d'en parler autour de vous, il faut que ça se sache, il faut qu'on ait bruit au maximum. Donc voilà, on compte sur vous. On peut interpeller nos élus. Donc, n'hésitez pas, hein, vous trouvez facilement les adresses mail des mairies, de la communauté de communes. N'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'on n'obtient pas de réponse, il faut les harceler. Et pour l'instant, nos mails n'ont pas eu une seule réponse, pour l'instant. Juste FNE a une réponse, mais assez évasive, mais les particuliers, en tout cas, n'ont obtenu aucune réponse à leur demande. Donc, continuons, mettons-leur la pression. Le PLUI est en cours, donc on vous invite à aller déposer vos réflexions sur le PLUI. C'est assez simple, donc vous tapez sur un moteur de recherche PLUI, Communauté de communes, Pays d'Héricourt, ou simplement PLUI Héricourt. Donc là, on vous a mis l'adresse, hein, http://www.cc-pays-héricourt.fr. Ensuite, vous arrivez directement au PLUI et vous avez une page pour faire vos commentaires, vos réflexions.
Ah bon, mais qu'est-ce que c'est PLUI ?
Donc le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Tu veux dire un mot sur le PLUI ?
Ouais. Pourquoi on parle du PLUI ? Pour la simple raison que si demain il était décidé de faire cette zone, et les forestiers arrivent, d'ailleurs c'est le but des forestiers, hein, c'est d'énormes engins pour attaquer 40 hectares. On les a vus à l'œuvre sur 4 hectares à ce moment, ça va assez vite. Alors là par contre, c'est pas très nuisible, il n'y a pas de longue nuisance. Hein. En une semaine, ils vous rasent tout. Ah, ils ont très efficace. Puis après, ça sèche. Mais la semaine prochaine, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'en fait, il faut changer ce plan local d'urbanisme. Et pour le changer, il y a toute une procédure de consultation qui est en cours, qui dure d'ailleurs depuis un certain moment. Mais il y a très peu de choses qui précise qu'une zone industrielle de 30 hectares pourrait apparaître sur l'UE. C'est une sorte de manque de précision, sans doute une petite erreur d'omission. Par contre, vous pourrez aller consulter et déposer en précisant que vous êtes opposé à la destruction de la forêt de la communauté de communes d'Héricourt. C'est une suggestion, l'use tout particulièrement, et plus généralement les zones forestières. C'est sous cet angle-là. Et le protocole de réalisation du PLU prend en compte vos remarques, nécessairement. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez Il prend en compte, ça ne veut pas dire qu'il les applique, bien sûr. Mais une trace officielle sera laissée si vous le faites.
On a lancé une pétition, donc voilà, elle vient de sortir. On a l'exclusivité aujourd'hui. La pétition s'intitule « Non au massacre de 30 hectares de forêt à Luz ». Mesdames et messieurs les élus de la communauté de communes du pays d'Héricourt, le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, évoque le projet de créer une gigantesque plateforme industrielle qui détruirait plus de 30 hectares de forêt de feuillus à Luz, alors que les friches abandonnées et les zones industrielles vides déjà artificialisées ne manquent pas dans notre secteur. Tous les experts nous alertent sur l'urgence climatique, la forêt qui conserve la fraîcheur, purifie l'air, régule les pluies, assainit l'eau, abrite la biodiversité et préserve notre cadre de vie, est aussi notre allié contre le réchauffement. Quel héritage voulez-vous léguer à nos enfants ? Dans un tel contexte d'urgence climatique, nous signataires de cette lettre de pétition, nous vous demandons d'abandonner tout projet de destruction des forêts de la CCPH et, croyant en votre esprit de responsabilité et d'écoute de vos électeurs, nous comptons sur vous pour trouver des solutions respectueuses de notre patrimoine vivant. Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, mesdames et messieurs les élus, nous vous prions d'accepter nos salutations citoyennes. Donc cette pétition est à votre disposition et vous le souhaitez, on peut vous en donner quelques exemplaires pour faire signer la pétition autour de vous. Elle sera également en ligne sur Internet. Ça va arriver bientôt. Pour soutenir SVP Héricourt, donc le collectif, on a mis une petite cagnotte parce que l'argent est en nerf de la guerre. Si vous voulez nous aider, on a toujours besoin d'impression, d'autocollants, on aura peut-être besoin d'affiches, de bannières. Donc voilà, tout don, bien sûr, est le bienvenu. Pour nous soutenir également, vous pouvez nous rejoindre. Plus on sera nombreux et plus on aura de poids. Donc pour nous rejoindre, plusieurs solutions. Soit vous voulez prendre partie prenante dans les décisions et dans ce cas vous rejoignez le collectif, le groupe actif. Ça ne veut pas dire qu'on est voilà, on est obligé de faire toutes les réunions bien sûr. Il faut avoir un petit peu de temps, mais voilà, on fait en fonction de nos emplois du temps. Et puis sinon, vous pouvez aussi être sympathisant du collectif, ou pas forcément venir aux réunions, mais nous appuyer quand on a besoin de renfort et obtenir les informations qu'on pourrait diffuser. Donc nos projets, c'est de continuer d'informer et d'alerter. On a déjà commencé, depuis qu'on est au courant du projet, à faire des articles de presse, une manifestation qui a eu lieu au mois de juillet, et puis des articles sur Facebook. Donc, renforcer nos liens avec d'autres groupes. Donc, on travaille déjà main dans la main avec FNE, France Nature Environnement. On est en contact avec d'autres défenseurs de l'environnement. Diffuser des affiches, des banderoles, des tracts, des autocollants. Donc, les autocollants vont bientôt arriver. Interpeller les élus. Faire ce genre de réunion, mais en faisant venir aussi tous les élus des communes de la CCPH. Voilà, donc il y a plein de façons d'agir, et j'espère que cette soirée vous donne envie de vous joindre à nous dans l'action, parce que ensemble on est plus fort, et c'est localement que nous on a le moyen d'agir. Voilà, je pense que quand il y a un projet comme ça... Agir, ça permet d'aller mieux. Donc agir, ça rend heureux. Donc, je peux en témoigner parce que depuis que je m'implique, je souffre moins de tout ce qu'on subit. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera là à la sortie, on vous invitera à poursuivre les échanges à l'extérieur. Et puis, donc, vous signez la pétition, emmenez des pétitions, parlez-en autour de vous, c'est très important. Voilà, on va passer maintenant à... On va arrêter le monologue, parce qu'on est plusieurs, mais voilà, on va vous donner la parole et lancer les débats, donc on est à votre disposition, et si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir, oui.
Merci. Bonjour, je m'appelle Sandrine Palliot, je suis une ancienne élue sur la ville de Héricourt, je voulais dire qu'avec le groupe d'opposition de gauche, Républicains, nous avons voté contre le projet technique à l'époque et qu'on a eu les mêmes réponses que vous. Alors, on n'a pas été traité d'abruti, mais je pense que c'était pas loin. Donc, c'était assez terrible. À la CCPH aussi, je suis avec Gilles Lazare, on s'est aussi opposé à tout ce qui était projet au keynote. Et là, on nous a opposé le problème économique en disant qu'on était contre les emplois. Donc, ça a été aussi très, très compliqué. Je veux dire, on a toujours tenu bon depuis le début, hein, je pense, Gilles, on n'a pas lâché. Après, c'est vrai que j'admire beaucoup ce que vous avez fait parce que nous, on s'est sentis assez seuls à ce moment-là. Et que bah, aujourd'hui, je suis tout cœur avec vous. Et puis, j'ai vraiment très envie de m'impliquer aussi dans ce projet. Et puis, je voulais dire que la dernière fois, quand on était à la CCPH, ça a un petit peu fait le foin. C'était bien. Et je rappelle que demain soir, il y a aussi un conseil communautaire. Et je pense que ça serait bien qu'on y retourne. Alors, je ne sais pas si ça vous dit, mais on pourrait tous venir un petit peu. C'est à la cavalerie. Et puis, voilà.
À quelle heure ?
Pardon ?
À quelle heure ?
C'est à 18h. Donc, soit y aller avec l'autocollant, et puis rentrer dans la salle, ou rester dehors. Après, on n'a pas fait d'autorisation, donc on risque de se faire jeter. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de remarquer le coup à tous les conseils communautaires de dire qu'on est là.
C'est une séance publique, de toute façon.
Oui, c'est public, ouais. Mais après, voilà, si je sais pas si on a le droit d'arriver avec. Si vous nous verrez, donc on peut essayer en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Il semble que maintenant on passe à la partie débat. Il faudrait que ce débat puisse être le prolongement de ce qui s'est dit, en restant calme, en échangeant nos idées, en opposant nos idées aussi. Il a été dit par M. le maire de Trémoin, l'idée n'est pas d'opposer la destruction de la nature avec la création de l'emploi. Je pense que c'est deux thèmes et deux thématiques qui sont bien différentes. Et ce projet, il ne date pas d'hier. Si on regarde un petit peu les rapports et les préconisations de l'ADU, l'Agence du développement de l'urbanisme, elle avait publié en 2013 déjà un petit rapport qui avait pour objectif de promouvoir un petit peu l'attrait, l'intérêt du pays des Récours et ce qu'il faudrait faire pour que ce soit encore plus attractif. Et ils avaient dit qu'en gros, sur le long de cette nationale à deux fois deux voies, il serait très intéressant d'avoir de belles vitrines à l'entrée côté Est et une très belle vitrine à l'entrée côté Ouest. L'entrée côté Est, c'est les Guignottes, c'est fait. L'entrée côté ouest, ça pourrait être un peu cet endroit. On l'a dit, c'est de la belle forêt. Donc si vous avez envie de parler de ça, de poser des questions ou d'apporter d'autres expériences, ça a été le cas ce soir, on est pris. Donc il y a un micro. On va juste essayer d'être Covid compatible. Ce micro, il faudrait un petit peu le désinfecter à chaque fois. C'est un peu triste, mais c'est comme ça.
Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Eric Coradini, je suis président de la Fédération d'environnement de l'Aube-Saône, donc au sol de Nature Environnement, qui a son siège à Fabezoul et qui fédère une douzaine d'associations de protection de l'environnement. Alors, moi, mes propos, ça ne va pas être donc sombrer dans le catastrophisme ou vous percer d'illusions. Hein. J'ai essayé d'être rationnel. Alors, que je vous explique bien, il y a un certain nombre de principes. Qu'il faut quand même énumérer ici, c'est qu'il existe des commissions départementales, et aujourd'hui, il existe une commission départementale qu'on appelle une CDPNAF, donc la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, et c'est cette commission-là qui va être chargée de juger la pertinence ou non de la réalisation de zones industrielles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation tend quand même à se durcir énormément en faveur de la préservation des espaces naturels. Alors, on a des alliés de poids aujourd'hui qui étaient à une époque, je le dis gentiment comme ça, nos ennemis, mais on les avait aussi comme alliés quand il s'agissait d'artificialisation, entre autres, pour faire des routes ou des lotissements. Donc, ce sont les agriculteurs. Donc, aujourd'hui, les agriculteurs ont grandement changé d'attitude. Et ils sont du côté, alors moi je siège, donc je suis titulaire de cette commission départementale, donc qui siège à la DDT à Vesoul, et c'est vrai que j'ai comme interlocuteur essentiellement les agriculteurs, et elle est essentiellement constituée à 60% d'agriculteurs. Voilà. Donc Je n'imagine pas les agriculteurs d'un avis favorable à ce projet-là dans la situation actuelle. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, ça n'engage que moi. Hein. Mais je les connais bien, je connais bien le président de la Fédération de la Chambre d'agriculture actuellement, c'est M. Chalmin, l'ancien président de la FDSEA, qui de toute façon, je vous le dis en off comme ça, c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a grandement évolué pour être opposé aux éoliennes. Donc on peut quand même, émettre quelques... On peut se faire quand même quelques illusions. Voilà,
c'est sûr, je pense que les sens, il y en a.
Voilà. Donc il y a aussi un autre élément important, c'est au niveau gouvernemental. Alors c'est vrai qu'on a tendance à brocarder notre gouvernement, mais il s'avère qu'on a quand même un président de la République qui vient de se prendre d'une circulaire gouvernementale. Elle est très récente, elle est de juillet 2019. Et cette circulaire gouvernementale tend à vouloir imposer sur le territoire national le zéro artificialisation nette. Alors, qui se traduit aujourd'hui à travers les fonctionnaires de la direction départementale de la DDT, donc des territoires, qui aujourd'hui appliquent cette circulaire gouvernementale, et avec cette circulaire, on arrive. Et moi, je peux vous dire que cette commission siège une fois tous les mois. Et jusqu'à présent, ça se passe relativement bien, dans le sens où on arrive à classer un certain nombre de projets d'urbanisme, notamment les projets de lotissement en zone naturelle. Donc vous voyez, alors c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas vous percer d'illusion, mais il s'avère quand même qu'on voit quand même que la situation est en train d'évoluer en faveur d'une prise en compte de notre nature. Voilà. Donc, alors maintenant, une question que je voulais aussi poser aux élus qui sont là. C'est que vous êtes en phase d'élaboration de votre SCOT, de votre schéma de cohérence territoriale. Dans votre schéma de cohérence territoriale, il y a forcément un PADD, donc un projet d'aménagement et développement durable. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que dit votre projet d'aménagement et développement durable, mais ce projet donc, de SCOT, il précise les zones à urbaniser, les zones à aménager. Et en fait, on est en phase d'élaboration de ces SCOT. Il y a 5 SCOT dans le département de l'Haute-Saône. Moi je siège dans tous les squats, donc celui de le vôtre, je n'ai pas connaissance.
Mais en fait, c'est le PUI qui vaut le squat.
C'est votre PUI qui vaut le squat, d'accord. Bon, ben, je l'apprends, c'est pour ça que je l'ai. Alors, je n'ai pas vu encore passer en consultation, donc je ne sais pas où c'est qu'il en est.
Mardi, à la Comcom, on a effectivement une réunion. Une commission concernant le PLUI. Tout à fait.
D'accord. Donc, mardi à ce qui concerne.
Et on est dans la phase d'élaboration du PADD.
Donc, c'est vrai que la phase d'élaboration de PLUI, c'est évidemment très important parce que ça va évidemment se prolonger par une enquête publique. Donc, il faudra évidemment qu'à cette enquête publique, vous soyez présent aussi. Voilà. Mais ça n'empêche pas, ça ne remplacera jamais le combat local, on est d'accord. Donc, c'est vrai que c'est de l'opposition locale que va naître éventuellement un certain nombre de prises de position et puis surtout de prises de conscience qui peut amener. Bon, je connais aussi M. Durcalter, malheureusement, c'est un climato-sceptique et c'est un gros bétonneur. Donc ça va être très très compliqué, j'en dis ce qu'on vient pas, c'est clair. Hein. Mais bon, on peut quand même. Enfin, moi, le but, c'est aussi de générer un peu d'espoir quand même. Quoi, hein. Voilà.
Il y a des climato-sceptiques très célèbres aux États-Unis. Certains estiment que les feux en Californie, c'est parce que les forêts sont mal gérées. Une question au fond ?
Oui, bonjour. Je suis Gilles Lazare. Donc j'étais avec Sandrine Paléo, donc, qui s'est exprimé à l'instant dans ce combat qu'on a mené toutes ces dernières années et qu'on a mené, y compris au moment des élections municipales, parce que nous avons rencontré Sophie Gabriel lors des réunions municipales, où donc d'emblée nous avons affirmé notre opposition à ce projet de 30 hectares de déforestation. Et donc, ça fait des années que nous opposons à Fernand Durcalter sur la façon qu'il a de voir le monde d'aujourd'hui, qui date des années 70, puisqu'on parle de l'industrie, mais on pourrait rajouter, on n'a rien contre l'Odyssée du cirque, mais cette, la façon de l'avoir implanté là-bas et son projet aussi d'un cinéma multiplex qui va être pris aussi sur Echelon et sur la terre agricole et sur la forêt. Donc on est vraiment sur un projet, sur une conception qui date des années 70, et ça a été dit à l'instant, et c'est un bétonneur, hein. J'appellerais ça un lotisseur, c'est pas un maire, donc il est dans cette conception à laquelle nous nous opposons depuis un moment. Donc au moment des élections municipales, c'était un sujet de divergence très important. Nous n'avons pas gagné les élections municipales, vous savez bien, c'est lui qui a gagné les élections municipales. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un relais citoyen qui doit être qui doit se développer. Et je remercie Sophie Gabriel et les autres membres de l'association de mener ce combat auquel nous nous joignons, bien évidemment, sur le plan municipal. Sandrine l'a dit tout à l'heure, on ne cesse de le dire à chaque réunion de conseil communautaire, chaque réunion de conseil municipal, que la politique qu'il mène en termes d'industrialisation, d'urbanisation, est une politique qui va à l'encontre des intérêts de la grande masse des Héricourtois et du pays d'Héricourt, aujourd'hui et demain, ceux qui vivent aujourd'hui sur cette planète et ceux qui vont venir plus tard. Aujourd'hui, ce que je remarque de cette salle, je connais beaucoup de monde, il y a beaucoup d'habitants de Luz et beaucoup d'habitants de Chagré. Ça veut dire qu'ils sont là parce qu'ils sont intéressés par ce débat, et ça veut dire aussi que lors des élections municipales qui viennent de se passer à Luz et à Chagré, ce débat n'a pas été posé. Le maire de Luz actuellement, donc M. Éric Stel, n'a pas mis ce débat sur la table, alors que c'est sur sa commune que va être amputé 30 hectares. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de... Il y a le combat que nous allons mener avec acharnement à chaque moment où on pourra le mener. Mais je crois, et moi aussi je ne suis pas du tout pessimiste, je crois que si les Héricourtois, les habitants du village, Luz, Chagré, mais au-delà, Coutenant, se mobilisent, d'abord en informant leurs amis, leurs voisins du projet, en interpellant, je crois que cette réunion qu'on vient d'avoir aujourd'hui, il faut l'avoir à Luz. Je crois qu'il faut prendre cette initiative de convoquer cette réunion à Luz et d'inviter le maire de Luz et le conseil municipal de Luz à s'expliquer comment on peut proposer d'être maire et d'avoir une majorité municipale à Luz sans avoir informé les habitants de Luz sur ce projet qui est fondamental, qui va impacter cette commune pendant longtemps. Donc je crois qu'une des initiatives que devrait prendre le collectif, c'est une proposition que je fais, c'est d'avoir une réunion décentralisée à Luz et Chagré, Coutenant, qui sont bien sûr Héricourt, mais qui sont les trois communes qui vont être impactées par ce projet. Et je suis persuadé qu'en se mobilisant, bien sûr, la pétition. Alors, cette pétition, nous proposons de la mettre en motion au prochain conseil communautaire, pas celui de demain, mais celui de prochain, de la mettre en débat et de voir un petit peu quels sont les élus, les conseillers qui vont se mobiliser. Parce que c'est vrai que c'est un sceptique, le Felter, mais c'est aussi un homme politique. Et il tient compte, forcément, de la vie des habitants de la Comcom. Donc si, et les maires du village aussi, donc si il y a une mobilisation, tous ces élus-là vont forcément tenir compte de la vie des citoyens de ce territoire. Donc je crois qu'il faut vraiment y croire. Je pense qu'on peut gagner parce que nous portons quelque chose de fondamental. C'est la vie sur Terre, clairement, hein, sur notre territoire et au-delà, et sur la qualité de vie. Et donc, je pense qu'on peut gagner, mais il faut aussi qu'on se serre un peu les coudes et puis qu'on aille un petit peu au charbon. L'idée de Sandrine Paléo d'aller régulièrement au conseil communautaire est une bonne idée, mais aussi aller sur le territoire donné, c'est-à-dire la commune de Luz.
Absolument. Voilà. Après, la vraie question est de savoir si les maires des communes de Luz et de Chagré avaient, au moment des élections municipales, suffisamment d'informations pour amener le débat public. Alors, on parle beaucoup de Luz et de Chagré, vous les avez vus sur les plans. La parcelle indiquée est une projection de l'endroit où on pourrait se construire cet ensemble. Et sur le banc communal de Luz, mais attenant tout de suite voisin à la commune de Chagré d'un côté, et aux communes de Coutenant, puis un peu plus loin, après je crois qu'il y a Sonneau qui n'est pas très loin, tu as aussi des terrains qui viennent assez loin, vers les Torréchales, je crois. Mais effectivement, d'apporter ce débat sur la place publique des communes concernées, Luz et Chagré, c'est vraiment très intéressant, et c'est ce que proposait Sophie et les personnes ici, et tous les membres du collectif, c'est d'emmener le débat directement dans ces places, de parler aux voisins, de parler aux maires, et et lors des conseils municipaux. Il faut rappeler que les conseils municipaux sont des moments de vie citoyenne et communale ouverts au public. C'est là aussi où il faut apporter le débat et proposer le questionnement. Il y avait une question par là-bas, peut-être ?
Non, oui, il y a une question d'Daniel Stater, association ADOX. Juste pour vous donner une idée, à un moment donné, on a intervenu sur un périmètre de 7 villages. Et ce qui est pas mal, c'est une suggestion, c'est d'avoir au moins un membre actif du collectif par village qui peut faire le relais, s'il y en a deux, c'est encore mieux.
Voilà, très bonne idée.
Qui est du local.
Une question par là-bas ? Oui ? Tu arrives à emmener le micro jusque-là ? Donc, juste une petite présentation pour pouvoir vous situer.
Jean-Denis Perret-Gentil, je suis l'ancien maire de Coutenant. Petite information concernant donc, le niveau d'information de l'actuel maire de Luz sur le projet. Mmh. Il était parfaitement au courant du projet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avant de quitter mon mandat, on a pris à Coutenant une délibération qui était transmise à la communauté de communes pour dire toutes nos interrogations concernant ce projet. J'ai informé mon conseil dès le départ, dès l'instant où il y a eu les premières informations, des risques qu'il y avait par l'emplacement, par l'ampleur de la déforestation, et par les risques qu'on peut avoir, notamment en matière d'hydrologie, pour les communes qui sont sur le bassin versant. Coutenant est déjà très impacté par rapport à ça. Une étude devrait être menée, si tout va bien, qu'on trouve l'argent pour la faire, parce qu'on ne sait pas si la 2x2 voie qui a déjà produit des dégâts pas possibles est à l'origine des troubles qu'on connaît sur le village.
Vous pourriez...
C'est des maisons qui sont... Près du terrain de foot, tu as tout un quartier avec des maisons qui sont impactées, qui se fendent. Les mares ne bougent. Et on ne connaît pas l'origine exacte de ces troubles, de ces mouvements de terrain.
Et la construction de l'ensemble de 2x2 voies pourrait être un des éléments.
On a une étude qui nous dit, dans un premier cas, qu'il y a eu. La 2x2 voies impacte. C'est le premier rapport qu'on a eu du BRGM. Le deuxième rapport est moins clair. Donc après, on a besoin d'autres études par rapport à ça.
C'est des choses qui ne sont pas complètement inenvisageables quand on prend en compte qu'au moment de la création de l'échangeur de Trèves-Nancy-Venant, une grosse étude de mesure des maisons de tous les villages avoisinants ont été réalisées en amont, en projection des tirs de mines, pour pouvoir justifier que ce ne sont pas les tirs de mines qui ont provoqué les fissures. Ouais.
Donc, toujours est-il que ce projet tel qu'il est là, à mon avis, est complètement inadapté par la zone où elle est implantée. Et le village de Luz oublie aussi des accords qui ont été pris il y a près de 20 ans, puisque l'espace qui est près de l'échangeur de chez Pierrette est prévu pour faire une zone à la base.
Il y a
le parking. Ça, c'est sur Coutenant.
Oui.
C'est la part que Coutenant a pris à l'époque pour respecter un certain nombre de problèmes qui se posaient. Mais en face, devait s'installer aussi une zone qui était sur le terrain de Luz. Depuis, quelques maisons ont été construites à Luz, etc. Et donc, le problème, plutôt que de l'avoir là, est reporté donc, sur cette zone boisée, avec un dénivelé important.
Plus de 50 mètres.
Et on est presque sur du 5%. Il y a 9 zones, hein, il y a 9 plateformes qui sont prévues. Si je me souviens bien des dossiers qui ont été présentés en catimini. Mais au-delà, je pense qu'aujourd'hui, la carte est entre les mains de chacun des élus des villages et de la communauté de communes. À chacun de ces élus de prendre ses responsabilités et de voter contre. C'est pas parce que le président Burkhalter arrive avec quelques rapports bien écrits que les gens doivent voter pour. Je crois que aux élus actuels de prendre leurs responsabilités et de dire qu'on ne vote pas.
Et vous pointez quelque chose du doigt qui est très pertinent. Tout ceci découle, comme l'a dit Sophie à l'instant, d'un paragraphe dans un programme de campagne municipale. Monsieur Burkhalter est président de la CCPH. Une question par ici.
Attention.
Malheureux. Restant Covid compatible. Et il y aura une question juste après là-bas.
Monsieur Jean-Rouen, nouveau maire de Coutenant.
Bien sûr, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon prédécesseur. Coutenant, on est quand même impacté aussi, puisqu'on est une toute petite commune. On a 35-37 hectares de bois. Donc demain, c'est comme si on nous enlevait directement notre forêt. Ma position sur ce projet, c'est que je m'y oppose, bien sûr. Hein. Je suis colo, moi j'assume, je fais partie des abrutis, donc des abrutis. Mais je m'y oppose pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici ce soir, mais surtout pour les problèmes aussi d'écoulement d'eau. Parce qu'à Coutenant, on est impacté depuis qu'on a créé le parking de la 2x2 voies. On a artificialisé le sol. À cet endroit-là, ça coule directement vers notre ruisseau. Et on a un ruisseau qui déborde de plus en plus souvent et de plus en plus, de plus en plus vite. Donc, il faut alerter, bien sûr, la population de Chargé, qui est tout de suite en contrebas de la zone. Et là, si on ne fait rien, il y a l'écoulement d'eau qui va partir directement sur la commune de Chargé, peut-être aussi sur Coutenant, puisque le bassin versant est des deux côtés. Et là, il y a un gros risque.
Et dans quel état de propreté ?
Comment ?
Et dans quel état de propreté ?
Et dans quel état de propreté, hein, puisque on voit bien comment c'est autour des zones artisanales, et c'est pas toujours très propre. Quoi. Donc voilà, merci.
Merci. Question vers le fond. Non, c'était là. Bon. À l'extérieur, quelqu'un a des questions aussi ? Alors, on peut juste faire le petit monsieur là. Voilà. Voilà le petit monsieur. Covid compatible.
Messieurs. Donc moi je viens en tant que voisin donc de Pays de Montbéliard, du collectif du Champ d'Assiette Édouard Vicombière. Alors déjà, donc félicitations pour cette réunion, là, pour la qualité des interventions, et puis aussi pour la persévérance, notamment de Sophie Gabriel. Voilà. Donc on connaît déjà depuis longtemps. Donc je viens en tant que voisin, je pense que ce problème, effectivement, ça concerne Héricourt, mais tout le bassin de ville est urbain, je crois que c'est clair, hein, vous avez vu, pour les... Donc, les surfaces qui sont artificialisées. Pour notre part, effectivement, le combat rejoint le nôtre, qui est du champ d'assiette, qui est la nourriture, et qui est un des problèmes, donc c'est l'accès à la terre pour des maraîchers, qui est très difficile, à savoir que ça représente actuellement des surfaces agricoles, le maraîchage 0,3%. Donc, voilà. Donc, il y a à faire. Et les collectivités ont un rôle à jouer. Donc, ils ont du terrain, etc., je pense aussi. Donc là, voilà. Nous, c'est notre thème, mais qui rejoint aussi toutes les autres actions sur le climat. Hein. On ne peut pas isoler. Et je crois qu'on s'est déjà retrouvé donc, sur des actions, hein, donc on peut reconduire. Hein. Donc je rappelle, il y a les carnavals à Belfort, hein, donc il y a profité de ces événements-là. Il y a eu les marches pour le climat, on peut imaginer les prochaines sur Héricourt avec toutes les alternatives. Voilà. Hein, donc il y avait des interventions donc, à campagne à la ville, etc. Donc, pour dire qu'on a besoin d'être en réseau, je crois qu'il fonctionne bien déjà, mais il faut encore peut-être l'améliorer.
Merci. Merci beaucoup. Merci. On passe au fond avant d'aller dehors.
Bonsoir, je vous connais un jour de maire de Chargé.
Bonsoir.
Je voulais répondre à M. Lazare, justement, puisque je suis nouvel élu. Et effectivement, j'étais pas au courant de ce projet. Et c'est moi qui ai posé la question la semaine dernière en comité de commune pour comprendre un petit peu les enjeux. Voilà.
Donc aucune information préalable vous n'était parvenue, ni par la CCPH, ni par votre professeur.
Non.
Impressionnant.
Merci.
Alors, en attendant que le micro arrive, on parlait tout à l'heure d'action et d'activisme, il y a sans doute des choses qui vont se dessiner. Si vous avez des idées, ça peut être l'occasion aussi d'en parler. Alors, gardez bien le micro vers là, voilà.
Ouais. Bonsoir, moi je me présente, je suis Géraldine Sylvan. Je vais juste apporter un petit témoignage. En fait, ça fait un petit moment que ça me tourne les pieds, et en fait, j'ai pris une décision. En fait, je vais interpeller M. Burkhalter, et comme moi j'habite à Chargé, et juste derrière l'endroit où vous dites,
absolument.
Je vais l'interpeller en lui disant que si le projet se fait, je pars d'Héricourt. Ah non,
j'ai rien dit. Si, c'est qui va nous soigner.
Je ne sais pas, quelqu'un me chercherait, mais moi je m'en vais.
Alors, ça peut devenir un vrai problème parce que, pour ne rien vous cacher, on voyage l'été comme tout le monde et en traversant la France, on a vu de multiples endroits des panneaux « cherche médecin dans commune ». C'est un vrai problème. Hein. Mais c'en est un autre, ça par contre. Effectivement, sur le plan de juste à côté, le ruisseau est pas très loin de chez vous.
Ben, c'est juste devant, le ruisseau, il passe devant.
Voilà.
Le ruisseau passe devant chez moi, donc si cette zone se fait, que voilà, je. Mmh. C'est aussi pour la question écologique, c'est pas juste parce que c'est pas une question personnelle. La rigueur, je pourrais prendre une autre maison, c'est pas grave, mais c'est pour essayer d'interpeller, quoi. Je suis une des plus jeunes médecins d'Héricourt, donc si je m'en vais, ça fera peut-être un petit peu bouger si je titille un peu là-dessus, et puis si je mets une affiche au cabinet, comme quoi, voilà, soutenez-nous, et puis peut-être.
C'est voilà. une belle
si
action.
Regardez, ben,
merci. D'ailleurs, si vous voulez un exemplaire de la pétition pour le cabinet, on peut en parler.
J'y repense, donc on a évoqué une adresse mail. Vous aviez, on a un Facebook, je pense qu'en tapant SVP plus loin Héricourt, vous devrez le trouver. Et un site internet aussi, en tapant la même chose sur un moteur de recherche, vous devriez dans quelques jours le trouver. Ça met un peu de temps à se référencer, puisque c'est tout.
Effectivement, c'est assez récent comme action et le temps que tout se mette en place. Ça a été dit tout à l'heure, les infos sont arrivées au fur et à mesure ces derniers temps. Le nom SVP Héricourt n'est pas très vieux, il date d'avant les vacances. Voilà, le temps que tout ça se mette en place. Quelqu'un a encore envie de réagir, envie de poser des questions, envie de solliciter des interactions?
Bonsoir, Jean-Luc Prudhomme, je ne suis pas d'ici, donc je suis un voisin, mais enfin les forêts d'ici, je les connais quand même facilement. Je voulais simplement signaler une chose. Vous disiez dans le PLU, ça ne figure pas, et vous citez que c'était dans le PLU. Il faut être patient, il faut une cohérence. Parce que dans la pétition, il faut faire attention. Autrement, autre chose, c'est qu'il n'y a pas que les forêts qu'il faut défendre. La zone des guinottes, là-bas, vous avez les champs. Pourquoi on a laissé faire? On a été obligé de laisser faire. Il y avait des milliers d'endroits comme ça. Alors qu'on ferme des usines de tous les côtés pour recréer des nouvelles zones. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de faire du neuf que de nettoyer, de dépolluer les zones pour être contaminées pendant des années. Voilà pourquoi.
Et
simplement.
Et même pour aller plus loin. Pour aller plus loin de ce public. Il y a énormément d'aides et de subventions nationales, internationales, européennes pour du neuf et rien ou presque rien pour l'ancien en rénovation.
Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on parlait de combat, il y a, je pense, encore beaucoup de gens à qui, vers qui il faut aller toquer à la porte, hein, les amoureux de la forêt, les champignons, on en parlait tout à l'heure, mais il y a peut-être aussi les chasseurs, ça peut peut-être les concerner, il y a peut-être aussi d'autres associations de défense de l'environnement, de la nature, des eaux, qu'on ne connaît pas, que vous connaissez peut-être.
Il y a des élections qui arrivent.
Et il y a des élections qui arrivent aussi.
Et les gens qui vivent du bois.
Et les gens qui vivent du bois. Quelqu'un? Oui, par là-bas.
Vous
avez
soutien
de
la
FPO
du Côte
de
Montréal
par rapport à votre relation.
Venez rejoindre.
La liste de protection des oiseaux.
Voilà. Venez rejoindre SVP Héricourt. Dehors, quelqu'un encore. Un autre médecin qui veut partir? Là-bas.
Ok, merci. Bonsoir. Marianne Étoffé, élue à Héricourt, et moi je suis extrêmement curieuse, j'aurais aimé savoir qui habitait Luz, qui habitait Chagé là ce soir, quels étaient les habitants qui s'étaient déplacés.
Alors ceux qui ont le courage, Luz, on va commencer par Luz, parce que c'est sur le banc communal de Luz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Chagé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si j'ai bien compté.
Chagé gagne.
De Coutenant, du monde, de Coutenant. 2, 3. Alors, de Trémoin, on est loin, mais 2, 3, 4. Et d'Héricourt. Il y a du monde également qui est venu d'Héricourt. Ouais.
Et plus loin qu'Héricourt.
Quoizot.
Quoizot.
On est là, on était 6, mais il y en a pas
Quoizot, uniquement Quoizot.
Coiseau.
Ah,
vous étiez 6.
Oui, mais ils sont partis parce qu'ils étaient dehors.
C'est effectivement, alors on le regrette pour ceux qui sont dehors, qui ont peut-être un peu plus froid que ceux qui sont dedans, mais on nous a donné une jauge maximum de 50 personnes et on ne s'attendait pas à ce que ces 50 soient là aussi vite. Alors on a calculé tout à l'heure, on était à 77. Donc ce qui est bien pour une première.
Et donc on est autour de 77 de la même communauté de communes. Et donc c'est notre et la nature et cette unité de lieu, c'est notre point de jonction. Parmi toutes ces personnes, je le redis, si quelqu'un pouvait un petit peu charger de son village, je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs, mais je le redis, pour diffuser pétition, ce travail d'information de soit par internet, je connais moins, soit d'aller voir ses voisins, les informer de ses craintes et peut-être même leur et les emmener dans cette signature pour qu'ils prennent position, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est quand même assez gratifiant pour votre information.
Mais effectivement, on sort d'une période un peu étrange où on a apprécié de pouvoir revoir ses voisins, donc c'est peut-être le moment d'aller partager un bout de tarte au couette sous pomme et discuter de tout ça.
Juste pour compléter, c'est sûr que on a besoin de l'appui des populations, et ça a vraiment du poids, et comme on aura du poids aussi avec l'appui des municipalités. Dans l'opposition qu'on a à la carrière de secondant, il y a combien de mairies finalement? C'est 7 ou 8
On a 7 mairies conseils municipaux formellement opposés, renouvelés et toujours aussi opposés.
Et en fait, ça nous a permis quand même de déposer des recours gracieux, enfin, j'ai fait toutes sortes de démarches. Et c'est un élément, je pense, qui a compté dans la décision du préfet du Doubs l'été 2019. De casser l'accord d'exploitation qui avait été donné à Maillard. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur les deux aspects. C'est la population qui est concernée, qui se sent concernée, et qui l'affirme, et qui va solliciter son maire, son conseil municipal, pour dire, bon, il faut aussi qu'à ce niveau-là, les choses soient entendues et que le relais soit fait. Et les municipalités qui vont s'impliquer à un moment donné, que ce soit dans les votes à la Comcom ou que ce soit dans des délibérations ou des motions qui sont prises également au niveau des conseils municipaux, et tout ça va faire bouger les choses. Et après, il y aura des recours gracieux en fonction de où va aller ce projet-là, si à un moment donné, on est obligé d'aller faire des actions en justice pour s'y opposer.
Je pense qu'on va s'arrêter là, la soirée a été riche. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement, merci de votre écoute, merci à tous ceux qui sont restés dehors pour respecter les règles dans le froid, vous avez beaucoup de mérite. On vous attend donc demain à 18h, hein. Et puis n'hésitez pas à venir vers nous, on va se mettre à l'extérieur, signer la pétition, et on vous dit à bientôt. Géraldine, il ne faudra pas faire les valises parce qu'on va gagner.
Dernier. Petit détail, si vous souhaitez que l'on fasse réaliser des autocollants du type de ceux que vous pouvez recevoir sur nos t-shirts, et comme on l'évoquait tout à l'heure aussi, on sera amené à faire des affiches, des choses comme ceci, on a toujours notre petite boîte à sous, un peu vide pour l'instant, qui est juste sur la table à l'entrée quand vous êtes arrivé à côté du jury de retenue. Merci.
Merci à tous les intervenants, et si jamais avant de partir, vous avez le courage de mettre les chaises en pile, ça serait magique. Merci beaucoup.